Dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, le partage des connaissances l'est beaucoup plus, mais en fait, la profession y met quand même des limites. Il faut des locomotives paysannes. Et ça, c'est clair, hein, il faut que les paysans puissent s'investir pour que ça marche, quoi. Ils m'en apprenaient autant que je leur en apprenais, voire plus. Enfin, c'était vraiment des échanges et au début, c'est quand même eux, ils me formaient plus que je les formais, hein, ça c'est clair. Hein. On a été connoté l'Arzac pendant très très longtemps, c'est qui était un atout et puis une difficulté à un moment donné. Hein. Pour moi, c'était pas une utopie, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on pensait que c'était possible, qu'en fait, c'était pas inatteignable du tout. Et pour moi, dans ma tête, c'était pas une utopie, c'était ça ou rien.
Ces mots sont ceux d'Elisabeth Le Petit-Collin, une vétérinaire, mais une vétérinaire atypique. Tout fraîchement sortie de ses études, elle a un projet innovant pour le moins, faire descendre le vétérinaire de son piédestal. Aller sur le terrain à la rencontre des éleveurs pour partager le savoir et les savoir-faire, ceux des éleveurs comme ceux des vétos, pour coopérer, échanger, mutualiser. Pour beaucoup, c'est une utopie. Pour elle, c'est juste un projet qui doit voir le jour. Elle y met toute son énergie, largement aidée par un terrain favorable qu'il existe en Aveyron, sur le plateau du Larzac, où 103 paysans se battent pour garder leurs terres. C'était il y a 40 ans. Et depuis, Elisabeth n'a pas arrêté d'avancer, d'impulser, de construire collectivement et de s'investir solidairement. Dissonance de ce mois-ci vous invite à découvrir une utopie devenue réalité, l'association vétérinaire éleveur du Miavois, l'AVEM. Durant cette heure, il sera aussi question de conviction, d'agroécologie, mais aussi de légions étrangères, de Sénégal, de Palestine, le tout sur fond d'espoir, porté par le témoignage de cette femme de conviction qu'est Elisabeth Le Petit-Collin. Dissonance avec Elisabeth Le Petit-Collin. Elisabeth Le Petit-Collin, vétérinaire de profession, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Depuis longtemps ?
Alors, oui, puisque en fait, je viens juste de prendre ma retraite et donc ça fait plus de 40 ans que j'ai exercé cette profession, mais pas dans un cabinet. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité après mes études à trouver ma place dans ce monde-là avec lequel je n'avais pas forcément beaucoup d'atomes crochus.
Oui, justement, j'ai lu un livre récemment d'André Robinet qui disait que tu étais une vétérinaire, mais pas du tout comme les vétérinaires qu'il avait connus. Tu étais habitée par une vive curiosité sur le métier d'éleveur, soif de mieux comprendre les paysans, bienveillance, avec ce monde-là. Et tu avais envie de coopérer, d'échanger, de partager. Comment tu as pu concrétiser cette envie-là dans les années 70, 75 ?
Alors, d'abord parce que en fait, on étant étudiante, on avait une petite analyse politique de la situation agricole. Ça nous passionnait complètement, hein, ce qui se passait. C'était le début des paysans travailleurs. Et donc, toute l'évolution de l'agriculture, on allait vers la modernisation, le début de l'intensification, l'agriculture industrielle, tout ça, ça nous interrogeait beaucoup. Et on se demandait aussi quelle place il fallait prendre dans ce paysage et avec qui. Donc voilà, on a beaucoup beaucoup réfléchi pendant les années d'études pour essayer de construire quelque chose d'un peu différent. Et il se trouve que par ailleurs, des paysans aussi réfléchissaient donc dans plusieurs régions de France sur comment un petit peu aborder les problèmes de santé animale et pas uniquement d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire comment en fait accéder aux connaissances sur la santé qui était un petit peu le monopole d'une catégorie professionnelle. Ça c'est un invariant. Sauf que quand même les attitudes des vétérinaires ont quand même bien changé en 40 ans. Les jeunes vétérinaires quand même parlent beaucoup avec maintenant avec les agriculteurs. Les relations ont quand même changé. Mais à l'époque, le partage de la connaissance, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Aujourd'hui, le partage des connaissances l'est beaucoup plus, mais en fait, la profession y met quand même des limites. On veut bien que les éleveurs soient un petit peu infirmiers de leurs élevages, mais on ne veut pas qu'ils posent un diagnostic, par exemple. Le diagnostic, c'est vraiment réservé à la profession. Et voilà. Donc nous, on n'était pas vraiment là-dedans, quoi, en fait. L'idée, c'était qu'en fait, il y avait un savoir paysan, et que ce savoir paysan, il était très, très, très précieux. Et sans ce savoir paysan, on était... On ne pouvait pas donc travailler correctement si on n'en tenait pas compte.
Comment s'est fait, Elisabeth, la rencontre entre ce groupe de vétérinaires qui avait cette volonté de partager son savoir et ces paysans dont tu dis qu'ils avaient aussi envie de transmettre leur passion ?
Pour beaucoup, il y avait des demandes de la profession dans certaines régions et beaucoup, donc Rhône-Alpes par exemple, avec des jeunes agriculteurs qui étaient sur une mouvance un peu politiquement progressiste, sur de la formation. Et donc à partir du moment où en fait il y avait des demandes de formation ou des demandes d'enquête, ils s'adressaient donc et il se trouve qu'en fait on avait former une association au niveau des écoles vétérinaires qui s'appelait le Centre d'études et de formation appliquée à l'élevage, où on était capable de mener des enquêtes sur le terrain en étant étudiant. Tout ça organisé avec un prof qui était également directeur de l'école vétérinaire de Lyon, qui s'appelle Michel Fontaine. Pour la région aveyronnaise, là, et ben c'est la rencontre entre cette association et le Larzac, qui avait monté une association qui s'appelle Larzac Université. Et l'idée de Larzac Université, c'était que les universitaires sortent un peu de leur université et viennent en fait transmettre aussi leur savoir donc auprès des paysans. Et donc on était dans le partage du savoir. Et donc là, ça regroupait des historiens, des généticiens, des médecins, des vétérinaires. Des géographes, des cinéastes, plein de gens sont venus discuter avec les paysans. Et donc, moi, je suis venu avec mes amis vétos, là, étudiants, de nombreuses fois sur le Larzac, faire des enquêtes auprès des paysans et donc rencontrer les paysans. Après, une fois sorti de l'école véto, je me suis bien posé la question de savoir quoi faire. J'ai tout de suite vu que l'exercice libéral ne me convenait pas et donc quelques amis du plateau m'ont proposé de revenir et d'essayer de monter quelque chose avec eux sur le Larzac et autour du Larzac assez vite.
Mais dans le groupe d'étudiants vétérinaires et de futurs vétérinaires, tu es la seule à avoir mis en pratique tes idées ?
Non, je n'étais pas la seule, parce que tous mes copains, ils ont, à partir des enquêtes qu'on a menées ailleurs, et en particulier ce qui nous préoccupait beaucoup à l'époque, c'était la brucellose. Et là, donc les enquêtes ont également, dans le Sud-Est, ont permis à mes copains d'avoir des relations avec des éleveurs, et du coup, soit avoir de s'installer, voire en libéral, quelquefois, ou de monter en fait des groupes comme celui de la VEM, qu'on appelle des groupes conventionnés. Parce qu'en fait, il y a une convention entre des éleveurs et des vétérinaires dont les principes, on peut les expliquer, hein, sont la mutualisation en fait, de la santé. L'idée de base, c'est ça, c'est-à-dire qu'on supprime le paiement à l'acte et les éleveurs donc, payent une cotisation pour rémunérer les vétos et mutualiser les coûts, surtout pour faire de la prévention et de la formation. Quoi. C'était ça l'idée globale. Quoi.
Comment tu as été perçu par les paysans du Larzac qui, quand même, effectivement, ça faisait déjà 5-6 ans, qui s'étaient ouverts à tout un tas d'autres choses de par la lutte. Quand même, le vétérinaire, c'est quelqu'un qui en impose dans la ferme. Et cette idée de vouloir partager le savoir, est-ce qu'ils l'ont bien pris ?
Curieusement, au moins, en ce qui concerne le Larzac, les vétérinaires ne venaient absolument pas dans les élevages. C'était d'ailleurs ça un peu la première critique, c'est-à-dire que les vétérinaires étaient dans leur cabinet, ils venaient faire des prises de sang, on leur apportait les brebis pour faire des césariennes, mais ils ne faisaient pas de vraies visites d'élevage. Donc ils étaient pas du tout présents. Par contre, les coopératives avaient développé à côté des services où il y avait des techniciens sanitaires qui étaient bien au fait en fait de la production et qui étaient bien plus performants que les vétérinaires à l'époque. Hein. Donc en fait, le fait de proposer des suivis d'élevage était bien perçu parce qu'en fait ils étaient déficitaires, ça n'existait pas quoi. Ils n'étaient pas suivis. Le fait de se mettre autour de la table et de dire la base ça va être le partage des connaissances et effectivement le fait que les éleveurs soient d'accord pour collectivement dire moi j'ai ce problème là et de pas de le dire devant son voisin et devant ses collègues c'est effectivement quelque chose qui n'existait pas partout parce qu'on est un peu fiers de et la santé c'est quelque chose de d'un petit peu obscur en quelquefois, mais sur le plateau ça a été, il n'y a pas eu d'objection majeure. Et puis il y avait quand même déjà des suivis au niveau du contrôle laitier, donc des techniciens qui passaient dans les élevages, et donc les éleveurs avaient quand même un petit peu l'habitude de partager quand même quelques expériences. C'était plus compliqué entre l'idée et puis le fait de le faire réellement, ça a été un peu plus compliqué quand même. Mais c'est bien le Larzac qui a permis en fait de démarrer ça. C'est aussi parce que le Larzac, en fait, c'est quand même quelques hommes qui se sont investis là-dedans. Et en particulier Jean-Louis Coulon, qui était président de l'Arzac Université et qui a été un grand initiateur de ce mouvement, enfin qui était complètement convaincu de l'utilité. Et là, on lui doit, on peut lui tirer un grand chapeau. Il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé aussi à le faire sortir du Larzac. C'est-à-dire que pour qu'en fait, il puisse y avoir des groupes sur Sévrac, le Viala du Tarn, le Causse Noire, en fait, tout autour du Larzac. Quoi. Il faut des locomotives paysannes. Et ça, c'est clair. Hein, il faut que des paysans puissent s'investir pour que ça marche.
dissonance avec Elisabeth Le Petit Collin.
Alors, en 79, on a démarré encore, on était encore à l'Arzac Université, c'était le groupe Veto de l'Arzac Université, la même est arrivée après 81, une fois qu'on avait commencé à avoir bien mûri et bien démarré le groupe.
Et 81, c'était aussi la fin de l'Arzac.
Ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, on démarre avec un petit groupe de 25 personnes. Et ça ne fait pas vivre un veto, quoi. Hein.
Et que... 25 personnes, donc une seule vétérinaire et 24 éleveurs.
Ah oui, parce que déjà, 25 personnes, on a du mal à payer un vétérinaire. Il était hors de question d'en avoir d'autres pendant un moment. Et donc, ce qui était compliqué, c'est de passer de 25 à un effectif qui permette de payer correctement quelqu'un, quoi. Ça s'est fait très progressivement. Et puis... ça changeait complètement les habitudes des éleveurs, parce qu'en fait, faire un suivi sanitaire, des visites régulières, c'était pas du tout, ils n'étaient pas habitués à ça, quoi. Et puis, ils voyaient pas forcément très bien qu'est-ce qu'on allait faire dans ces visites. Et il y avait des éleveurs qui avaient des problèmes de santé, d'autres qui en avaient moins, voilà. Donc il a fallu montrer que c'était intéressant pour eux, que en fait ils pouvaient apprendre des choses, donc progresser, que ça se faisait pas, ça se faisait en partenariat avec les structures agricoles qui étaient en place et pas contre les structures qui étaient en place, contre les gens, les contrôleurs avec qui ils avaient des relations personnelles étroites, tout ça, c'était ils ne passaient pas quand même de rien à quelque chose. Les contrôleurs aussi avaient des messages sur la santé, donc voilà, il a fallu caler tout ça, quoi. Alors ça a été des temps de réunion, oui, ça a été beaucoup de discussions en réunion ou avec les gens, oui, tout à fait, oui.
C'est un stéréotype certainement, mais pour moi le paysan est un taiseux. C'est un stéréotype, tu vas me dire.
Oui, je crois, parce que ils ont appris à parler avec les Arzacs. Hein. Et il y en a qui sont bien bavards, quand même. Hein. oui, il y a des taiseux, c'est vrai. Mais une fois qu'ils font confiance, ils font confiance, quoi. Hein. Mais ils sont pas tous taiseux. Hein. Non, ils sont pas tous taiseux.
Ils ont livré leur secret, mais leur ce qu'ils savaient de leur troupeau pour que ça puisse t'aider dans tes diagnostics. Facilement, ils l'ont livré, ça.
Ceux qui ont adhéré, oui. Ceux qui... Il y a même des paysans de l'Arzac qui n'ont jamais adhéré, à mon avis, sur ce critère-là. Ils ne voulaient pas du tout qu'on aille voir ce qui se passait chez eux, parce que, quelque part, c'est un peu de l'intrusion aussi, hein, dans leur vie professionnelle. On peut se sentir être jugé, c'est pour ça que c'est un peu délicat, mais en fait, moi, j'étais sur une phase où ils m'en apprenaient autant que je leur en apprenais, voire plus. Donc, les échanges c'était vraiment des échanges, et au début, c'est quand même eux, ils me formaient plus que je les formais, hein, ça c'est clair. Hein. Ça a dépassé le cadre du Larzac assez vite, hein, mais à partir des militants quand même qui sont venus sur le Larzac, c'était quand même ça la base. C'était ça la base, et d'ailleurs, on a été connoté Larzac pendant très très longtemps, c'est qui était un atout et puis une difficulté à un moment donné, hein, qui s'est en fait un petit peu arrêté au bout de 20 ans. Hein. La connotation Larzac, elle a quand même duré 20 ans, et puis c'est au moment où en fait... mon collègue Olivier Patou est arrivé, où je pense que là, avec un autre profil de veto, la connotation Larzac est peut-être était moins marquée, et donc et ça a permis d'autres choses, quoi, hein, aussi en termes d'extension, voilà. Oui, ça, c'est sûr que la connotation militante n'a pas toujours été un atout sur l'aspect économique et la viabilité du, du groupe, oui. Je pense que le Larzac est tout le temps moteur en termes de réflexion. Oui, ils sont toujours un moteur, je pense, mais les adhérents, ça s'est beaucoup étendu hors Larzac, quoi, en fait, hein. Alors, moi, j'étais seule longtemps. J'ai été aidée aussi par des objecteurs. Hein. À l'époque, il y avait des objecteurs qui m'ont quand même veto, hein, qui m'ont bien aidée. Et puis après, on a assez vite créé un demi-poste et on a créé des partenariats avec la coopérative qui était la CASAM à l'époque et Unicor aujourd'hui. Parce qu'en fait, les objectifs quand même de la coopérative en matière de santé, ils avaient en fait aussi un service santé animale qui était bien foutu, avec des techniciens, des taux, et on avait quand même des grandes convergences de vues sur la prévention, etc. Et donc du coup, ça nous a permis aussi en fait donc de pouvoir créer, de pouvoir avoir un deuxième veto, qui n'était pas uniquement payé donc par les adhérents, et donc qui était aussi payé par les prestations qu'on pouvait faire auprès des adhérents de la coopérative. Et donc, voilà, ça c'était toute une période où on était deux vétos avec des gens comme Hubert Hiron, avec qui on a monté en particulier le cahier des charges d'agriculture biologique chez Papillon.
Une étape importante, Roquefort.
C'était une étape très importante, oui. Où on a commencé à bien développer l'agriculture biologique. Après, Olivier Buscato, qui est maintenant vétérinaire à temps plein à Unicor. Et puis, est arrivé donc Olivier Patou, qui est aujourd'hui le vétérinaire principal de la VEM. Et à ce moment-là, moi, donc, je me suis moins investi dans la VEM et j'ai partagé mon temps entre la VEM et Unicor. Ce qui nous a aidé, c'est le fait que Olivier Patou a pu bénéficier à l'époque de ce qu'on appelle un emploi jeune. Ça nous a aidé à passer le cap en fait financier et de pouvoir payer correctement un veto. Et après, donc, de faire plus d'adhérents aussi, et du coup, après, d'avoir une autonomie financière qu'on a aujourd'hui, grâce aussi au montage de projets qu'on fait un peu à l'extérieur, et puis aujourd'hui, où on a... alors, bien sûr, aujourd'hui, normalement, il y a 3 vétos, pas tous à temps plein, et puis il y a une agronome. Le fait que dans l'équipe, il puisse y avoir un agronome, ça, c'était depuis le début... un projet, quoi. Parce que, en fait, notre approche se veut une approche globale de la santé. C'est-à-dire qu'on considère que l'élevage est un tout et que la santé des animaux, elle est liée à l'alimentation. L'alimentation est liée au sol. Et tout ça est lié aussi au fait que l'éleveur qui est au centre de tout ça... aime son métier, se trouve bien, il a des relations sociales, etc. Donc tout ça, c'est un tout. Donc si on veut que nos conseils soient pertinents, eh bien, c'est bien de pouvoir avoir aussi l'aide d'un agronome, surtout qu'on a pris en route le train de l'agroécologie. Donc la VEM, maintenant, est agréée GI2E. Donc c'est un groupe d'intérêt économique et écologique. C'est le plus grand groupe de l'Aveyron qui était agréé là. Et donc on est quand même assez fiers d'avoir réussi ça. Et puis donc d'avoir donc une orientation agroécologique et d'essayer de mettre en place un suivi donc agroécologique à la VEM.
Ces idées des étudiants des années 70-75 se sont concrétisées. Ça te fait quoi?
Moi, je suis assez contente quand même, hein, d'avoir pu participer à tout ça. Je dis bien participer parce que quand même, c'est bien les agriculteurs quoi, qui ont quand même boosté tout ça. C'est quand même leur vie économique et leur vie qui était en jeu. La mienne un petit peu, mais la leur beaucoup. Et qu'on ait pu faire tout ça dans la convivialité, alors ça c'était quand même quelque chose d'absolument incontournable. dans l'amitié, puis en fait, voilà, et avec une exigence quand même importante d'efficacité technique. C'était important qu'on soit bon techniquement, sinon ça peut pas faire, quoi. Et puis avec cette idée, qui est l'idée de départ de partage de savoir, de connaissances, que ça, c'est pas fini, que c'est tout le temps à l'ordre du jour, que pour l'agroécologie, il va falloir aussi recréer de la connaissance, que ça, on peut le faire que collectivement, et qu'il y a un nouveau concept que je trouve très très intéressant, qui s'appelle « une seule santé ». C'est santé en fait des hommes, santé des animaux, santé du sol, de la terre. Et je trouve que c'est un concept que l'AVEM peut se réapproprier, parce qu'en fait je trouve que c'est un beau concept, et ça peut être très porteur pour l'avenir, quoi.
Avec Elisabeth Le Petit Collin.
Vous avez développé la coopération avec étrangers aussi, oui. Le tiers-monde.
Quand Olivier Patou est arrivé, Olivier Patou revenait de, en fait, avait fait son CSN au Sénégal et donc avait des liens avec une association sénégalaise d'agriculteurs et un veto, Malik Ndiaye. L'idée est venue de faire de pourquoi d'aller faire un voyage là-bas et pourquoi pas du coup de se jumeler avec ces gens-là, et donc ça a plu beaucoup aux éleveurs de l'AVM, et on est parti à 30 au Sénégal la première année découvrir le Sénégal, les paysans sénégalais, avec l'idée de peut-être d'avoir un projet sur la santé. Et puis, au fur et à mesure, en fait, rencontres avec les agriculteurs, du partage de la connaissance, on s'est dit, ben non, c'est pas la santé, ce serait plutôt l'alimentation qu'il faudrait travailler. Et du coup, d'un commun accord entre les éleveurs sénégalais et les éleveurs de la VEM, on s'est dit, on va essayer de monter un jumelage un peu basé sur l'amélioration des produits, de la production fourragère là-bas. Et alors, l'idée, c'était quand même un partenariat. De notre point de vue, c'était pas, on n'allait pas faire de l'humanitaire au Sénégal. Et là, on est sur des opérations donc, d'importation, enfin d'envoi de petits tracteurs de 50-60 chevaux. Et donc, toute une équipe d'éleveurs qui vont là-bas donc pour former à la conduite, à la mécanisation. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc, ça fait très très peu de temps qu'on a un tout petit, on a un financement de l'Agence française de développement, mais l'ensemble des éleveurs, ils sont allés là-bas de leur poche en payant l'intégralité des frais. Et pendant 20 ans, ils ont fait ça, ce qui est assez exceptionnel. Et donc créer des relations conviviales avec les agriculteurs. Je pense que les éleveurs aveyronnais, enfin les éleveurs de la VEM sont accros au Sénégal. Vraiment, il y a des relations très très fortes qui se sont créées entre les gens. Et voilà, donc, tout le monde est là-dedans. Un conteneur va partir au mois d'avril avec deux ou trois tracteurs dedans. Il y a un mécanicien sur le Larzac qui est à la retraite, qui ouvre son atelier et qui anime donc une équipe d'agriculteurs qui sont en train de retaper les tracteurs. Tout ça fait de l'animation, tout ça est encore très fort, quoi.
Tu disais que vous n'étiez pas dans l'humanitaire, mais que vous apportent les éleveurs sénégalais ?
C'est aux éleveurs qu'il faudrait demander ça. Les éleveurs de la VEM ont du mal à formaliser tout ça, qu'est-ce que ça leur apporte, parce que comme je dis, ils ont vraiment envie d'y aller, ils ont du mal à formaliser l'apport. Moi je pense que en fait ils apportent une connaissance d'une culture qui est complètement nouvelle, qui a plein de choses de découvertes, c'est ça hein, de découvertes. Et puis, c'est moi qui formule ça, mais je crois qu'ils se retrouvent dans la situation dans laquelle ils ont pu être, ou leurs parents ont pu être à un moment donné. Et ils sont donc très, très affectés par le fait que, en voyant l'aide qu'ils ont pu avoir, eux, en termes de politique agricole, et de les voir dans le désarroi, ils mesurent la chance d'où ils viennent. Et ça, c'est très fort, quoi. Et donc, il y a une espèce de sentiment d'injustice, quand même. Et puis, d'incompréhension des politiques menées en pays de voie de développement, où il n'y a pas de... La politique agricole n'a rien à voir avec la politique agricole qu'ils ont eu la chance d'avoir, quoi. Moi, je pense que faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a une exigence de réflexion et de qui est incontournable si on veut avoir une petite longueur d'avance aussi, si on veut rester en fait un petit peu une structure un petit peu originale, et puis. Il faut nourrir de la réflexion, et surtout il faut arriver à la transformer. Alors ça c'est un peu complexe, la transformer sur le plan technique et service pour les autres. Et alors ça, donc on est aidé pour faire ça, et en particulier en matière d'agroécologie, on travaille en partenariat avec des équipes de l'INRA, et donc ça c'était un point fort pour redémarrer sur l'agroécologie. Sur l'aspect santé, on a aussi, alors c'est pas des équipes, enfin, mais les écoles Veto, on a trouvé des personnes aussi ressources très intéressantes à l'école Veto. Heureusement qu'ils ont été là et qu'ils nous ont aussi aidés, en fait, et qui ont aidé les éleveurs. Il faut absolument des partenaires pour pouvoir apporter un service complet aux éleveurs et nourrir notre réflexion. Cette réflexion, elle dépend aussi des débats sociétaux. Et la préoccupation, c'est que les agriculteurs restent en lien avec les problématiques sociétales. Ils le sont, de fait. Donc, c'est à nous, on va dire, les techniciens, les salariés de la VEM, à se poser la question de savoir comment ces problématiques sociétales qui se posent, comment est-ce qu'elles impactent ? Est-ce qu'elles impactent notre métier ? Est-ce qu'elles impactent les éleveurs ? Est-ce qu'il faut qu'on les prenne en compte ? Et comment, quoi ?
Est-ce qu'il existe en France d'autres types de structures qui correspondraient à la VEM ?
Oui, il existe d'autres groupes qui sont regroupés dans une fédération des éleveurs et vétérinaires en convention, la FEVEC. D'ailleurs, on s'est retrouvé là au mois de novembre, dans d'autres groupes, là, trois groupes dans la Loire. On a eu trois, quatre jours de réflexion avec eux. Alors, ils sont pas sur la production ovine majoritaire, ils sont sur la production bovine majoritaire. Mais les problématiques sont les mêmes, les éleveurs sont beaucoup les mêmes. Il faut absolument rencontrer ces gens-là. Il faut absolument. En plus, il y a un animateur. Donc sur la formation, sur donc l'agroécologie, sur toute la façon dont ces groupes s'inscrivent au niveau sociétal, c'est hyper important, quoi. Et les transmissions, les nouvelles générations, parce que là tous les groupes sont confrontés aux transmissions, donc il y a des nouvelles générations qui vont à la fois paysannes et à la fois vétérinaires qui prennent ça en main, donc qui vont essayer aussi de recréer en fait les conditions pour que tout ça continue à fonctionner avec les valeurs de départ, mais avec les problématiques sociétales qu'il y a aujourd'hui, quoi.
Et dans le monde de vétérinaire, est-ce que par exemple la VEM intervient dans des écoles de formation de vétérinaires pour parler de son projet ?
Alors pas assez, et largement pas assez. On le fait un peu au niveau de la FEVEC, mais pas assez. Et je pense que, à la fois parce que on n'y pense pas toujours, à la fois parce qu'on nous le demande pas, à la fois parce que les études sont pas organisées pour. Et du coup, on a du mal à recruter, parce qu'en fait, je pense qu'on est, on n'est pas très visible. On n'est pas très visible. Et c'est le cas aujourd'hui, là, au niveau de la VEM, on recherche un vétérinaire, on n'arrive pas à recruter. Et en même temps, le recrutement devient compliqué parce que les profils de poste de la VEM sont très très atypiques. Et je pense que les vétos recherchent des choses plus conventionnelles aujourd'hui, d'après ce que nous disent les profs.
Plus conventionnel, Elisabeth, c'est un statut, c'est de l'argent, c'est une facilité de travail. Parce que là, cette philosophie que vous avez de partage des savoirs, ça donne du sens au métier de vétérinaire.
Tout à fait, ça donne du sens. Et je pense que, en fait, les vétos de ma génération et puis même ceux qui ont succédé donc il y a 20 ans. Font pas trop la différence entre leur vie, la conception de leur vie globale et puis la vie professionnelle. Tout ça, c'est pareil. Du moins, il faut qu'il y ait absolument une cohérence entre les deux. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, et pas que les vétérinaires, font la différence entre le travail et puis la vie et leur vie personnelle. Et du coup, la vie professionnelle, elle est beaucoup plus cadrée dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des utopies eux aussi, mais ils le cadrent beaucoup plus, et donc on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Par ailleurs, ils sont plus accrochés aux droits, ils sont plus accrochés au salaire, bien sûr, donc ils sont peut-être moins militants qu'on l'était, ouais.
Il faut une sacrée dose de militantisme pour arriver, tu as parlé d'utopie, pour arriver à ce que cette utopie des années 70 soit concrétisée aujourd'hui, 40 ans après.
Pour moi, ce n'était pas une utopie. Ah. C'est-à-dire que, en fait, nous, on pensait que c'était possible, que, en fait, ce n'est pas inatteignable du tout. Et pour moi, dans ma tête, ce n'était pas une utopie, c'était ça ou rien. En fait, et il fallait que ça se fasse, quoi. Sinon, j'aurais fait autre chose, quoi. Mais ouais, c'était pas vraiment utopique. C'était pas pour moi. J'étais pas sur une utopie. J'étais sur une réflexion politique. C'était pas pareil. Enfin, moi, je fais pas tout à fait la même différence, quoi.
Dissonance avec Elisabeth Le Petit Collin. Et donc cette réalisation, on pourrait la qualifier de réussite collatérale de la lutte du Larzac.
Oui.
Il y en a d'autres, je crois. Hein. Donc il y a eu Larzac Université.
Alors Larzac Université, ça aboutit à, entre autres, à l'AVEM, ça aboutit aussi à s'habiller des pépites un petit peu dans d'autres domaines. De réflexion sur l'aspect collectif, parce que Larzac Université s'est transformé après le Larzac en centre d'initiative rurale, donc avec Alice Monnier, qui était une grande animatrice du centre d'initiative rurale. Et là, par exemple, je pense que Dédé Parenti, avec la coopérative des bergers du Larzac, a commencé sa réflexion là. Hein. Après, la coopérative des bergers du Larzac a fêté ses 30 ans. C'est une belle réussite du Larzac, des éleveurs. collective, une belle réussite collective. Après, il y a plein de choses qui se sont faites, qui ne sont pas forcément issues du Larzac, mais sur le foncier, bien sûr, la STL est une belle réussite également. Les GFA ont continué sur l'aspect foncier. Après, ça a débouché sur de l'agroforesterie, donc à partir de la STL, donc l'exploitation des bois, du Larzac, d'une façon raisonnée. Donc la mise en place après de possibilités de chauffage collectif. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Et puis ne serait-ce que tous les gens qui se sont installés. Après, et puis moi ce que je connais beaucoup moins, parce que j'ai pas mon boulot a fait que en fait il a été plus c'est un peu décentralisé du Larzac, mais il y a plein de jeunes maintenant sur le Larzac qu'il faudrait aussi réinterroger, parce que maintenant nous on commence à avoir de l'âge et donc il y a plein de jeunes sur le Larzac qui font des choses dont on parle pas forcément, mais de l'accueil, par exemple le CUN qui était le lieu de réflexion sur la non-violence. Il y a des gens qui gardent l'accueil, un système d'accueil très performant au CUN. Enfin, il y a plein de choses qui sont sur le Larzac, qui sont repris par des gens qui sont plus jeunes, qui différemment.
Et la Légion dans tout ça alors?
Ouais, moi je trouve que ça fait tâche. Alors on est un certain nombre à trouver que ça fait tâche, à avoir une très très grande déception au moment de l'arrivée de la Légion, de ne pas être d'accord avec l'arrivée de la Légion. On aurait pu penser qu'on aurait pu faire, qu'il aurait pu y avoir d'autres projets que ça sur le Larzac. Moi je trouve que c'est pas une réussite que la Légion soit là. Surtout que ça a été fait d'une façon un petit peu obscure, qu'on a reçu l'annonce un peu brutalement, de la même façon qu'on a reçu l'annonce de l'extension du Larzac brutalement, qu'on a eu l'impression que les élus donc ont fait ça sans trop de concertation. Ça a été dit que c'était un non-événement, c'est pas vrai du tout, quoi. C'est pas vrai du tout, quoi. C'est pas un non-événement. Bon, ils sont là. Ils sont là. Moi, je pense qu'il faut être très très vigilant par rapport à ce qu'ils font, à ce qui reste chez eux. Je pense qu'il y a des associations, une association qui s'est créée qui s'appelle Gardien ou Larzac, qui a des raisons, en fait, d'être vigilant.
Oui, donc à suivre.
À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non, c'est ce matin même. Dans les collines pâles, regarde bien, dit-il, c'est une route qui passe à deux pas larges et lisses, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats. Qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus. Implacable, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat? Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout. Et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix.
Avec Elisabeth Le Petit Collin.
Tu es très impliquée aussi dans un festival de cinéma palestinien ici dans le sud d'Aveyron, à Millau.
Alors je suis impliquée dans un collectif Palestine qui organise depuis 3 ans en relation avec une initiative sur Paris de faire connaître en fait la cause palestinienne à travers la culture et en particulier à travers les films palestiniens. On trouve que c'est un très bon moyen de montrer que les Palestiniens, c'est des gens comme tout le monde, qui vivent, qui ont envie de vivre en paix, mais qui sont empêchés, en fait, de vivre comme tout le monde par l'occupation israélienne. Et donc, moi, je milite donc pour faire connaître et défendre la cause palestinienne depuis fort longtemps. Et curieusement, c'est à travers... c'est à travers la bruxelloise qui m'a rattachée à la Palestine. Cette bruxelloise sur laquelle on a beaucoup travaillé quand j'étais étudiante. Et donc cette bruxelloise existait également en Palestine et en Israël aussi. Et donc en fait, les autorités palestiniennes avaient demandé donc toujours donc à Michel Fontaine de venir voir un peu la situation en Palestine et à Gaza. Et en rentrant de Palestine et de Gaza, Michel Fontaine m'a expliqué en fait la situation. Il m'a dit faut que tu raccordes, faut y aller voir un peu ce qui se passe. Il y a des vétos, il y a Vétérinaires sans frontières, faut les aider, etc. Nos actions vont dans le cadre du boycott des investissements sanctions. Donc ça, c'est vraiment important. On ne peut pas dire... aujourd'hui, on est... en fait, la situation est alarmante. Hein, parce que, en fait, la politique internationale ne va pas dans ce sens-là. Parce que la politique américaine est catastrophique. Parce que l'Europe se tait. Parce que tout le monde se tait. Donc tout le monde laisse faire, et donc le gouvernement israélien, qui est un gouvernement d'extrême droite, continue sa politique de colonisation. Il va rendre impossible le fait qu'il y ait un État palestinien. Déjà, on a séparé Gaza de la Cisjordanie. Là, les colonies sont tellement importantes qu'en fait, il y a même une possibilité, un risque que la Cisjordanie soit séparée en deux. Par les colonies, les routes coloniales. Donc la politique israélienne vise effectivement à rendre impossible un État palestinien. Et il risque d'y arriver.
Tout à l'heure, on parlait d'utopie. Tu disais que l'AVEM, c'était pas une utopie. C'était quelque chose que tu voulais mener à bien. La Palestine, la création d'un État palestinien.
L'AVEM ne dépendait pas de moi, mais elle dépendait de gens qui sont à côté de moi. Pas un problème de politique générale. Donc l'AVEM, si on considère que la politique c'est une organisation de la société, et l'AVEM c'est une petite société, c'est facile, c'est proche, hein, c'est facile d'agir localement. La colonisation de la politique israélienne, ça implique le monde, hein, entier.
Mais il y a de l'espoir, Elisabeth.
Et toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir, oui.
Un grand merci à Elisabeth. Cette émission sera rediffusée mercredi 27 février à 14h et samedi 2 mars à 16h.
Vous trouverez sur la page Dissonance du site internet de Radio Sainte-Afrique un lien vous permettant de réécouter cette émission, mais aussi divers liens vous donnant des compléments d'information.
Cette émission est disponible en téléchargement depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut
et fraternité.